Un crime
de Georges Bernanos.
Adaptation de Sylvie Péju.
Seconde partie.
Une nuit d'hiver à Mégères, petit village des Alpes. Au presbytère, Céleste Labonne s'inquiète. Le nouveau curé n'est toujours pas arrivé. Il a dû manquer le train et se débrouiller seul dans cette contrée oubliée des hommes et de Dieu. À peine arrivé, ce jeune prêtre, au regard intense et aux bonnes manières, croit entendre un coup de feu dans la montagne. Aussitôt, on prévient le maire, qui, accompagné d'hommes du village, inspecte les environs. On découvre dans le parc du château un corps sans vie, à demi vêtu. Sans doute un vagabond. Quand le maire veut prévenir la châtelaine, une vieille veuve très riche, vaguement excentrique, qui vit recluse entre sa gouvernante, une ancienne religieuse, et sa petite bonne, il la découvre étendue sur le parquet de sa chambre, morte. Des papiers brûlent dans la cheminée. Le lendemain matin, le nouveau curé de Mégères reçoit l'enfant de cœur, André, dans le regard exigeant duquel il reconnaît l'enfant passionné qu'il était encore récemment. Ce petit clergeon informe son curé que le vagabond n'est pas mort. Le curé veut aussitôt assister cet homme dans la souffrance et malgré son état de faiblesse, il se rend sur le lieu du crime. Le docteur est déjà là, qui fait l'étrange trouvaille d'un gros caillou dans la gorge du mourant. Au château, le juge vient d'arriver. Il se débarrasse vite du procureur, dont les soupçons s'égarent sur Philomène, la petite bonne d'une moralité suspecte. Le brigadier, de son côté, interroge Mathurin, le voiturier ivrogne qui a convoyé cette nuit le curé depuis la vallée après qu'il eut manqué le train. Mathurin a cru voir une femme errer dans la campagne. Le juge tente de reconstituer le parcours du vagabond. S'est-il introduit dans le château? A-t-il tué la vieille veuve? Avait-il un complice qui s'est débarrassé de lui? Que faisait-il dans la montagne, à moitié nu? Et que cache l'ancienne religieuse, la gouvernante? Dans ce village de Jean Frust, le juge n'a guère d'interlocuteur et ni personne, ni indice auquel se raccrocher. C'est ainsi qu'il tombe sous le charme du jeune curé, personnage fascinant, et entame avec lui une relation qui dépasse l'événement pour aborder la nature même du crime, du meurtre, et confronter sa justice, celle des hommes, à celle de Dieu. Le curé de Mégères semble cacher un secret terrible qui l'étouffe et l'enflamme, mais il est pris d'une crise et s'écroule au pied du juge. L'hôtel des Quatre Tilleuls emprunte son nom aux vieux arbres rangés devant sa façade et dont les branches s'enchevêtrent pour lui faire un mur de feuillage. Madame Simplici et ses deux filles quinquagénaires ne s'en soucient guère, donnant tous leurs soins à leur belle épicerie de campagne, dont l'odeur rance imprègne les chambres. Celle du juge d'instruction est la plus vaste, mais elle se trouve au-dessus du magasin et dès 5 heures du matin, la porte bat, puis tombe de l'église les rafales de l'Angélus. Néanmoins, monsieur le juge s'attarde un peu sous l'édredon. Il a plu toute la nuit, et l'eau fume encore au flanc des pentes pompées par le soleil. La journée sera belle.
Et c'est tant mieux, parce que celle d'hier compte parmi les plus lugubres de ma vie. L'enquête s'étouffe. Pas le moindre petit fait nouveau, rien. Il ne se passe rien. L'affaire semble classée. Quelques heures ont suffi pour mettre la gouvernante hors de cause, puisque le coup qui a brisé l'échine de la vieille dame n'a pas été asséné par un gringalet. Une femme peut-être, mais vigoureuse. Ni l'ancienne religieuse, ni la petite servante ne sauraient être soupçonnées. L'inconnu, lui, le vagabond, est mort au coucher du soleil. On dit qu'il n'aura survécu que quelques heures à son crime. Vite dit son crime. On n'a relevé nulle part ses empreintes dans la chambre du meurtre. J'ai vu son visage entrer dans les ténèbres. Un visage jeune et déjà usé. Ses mains gardaient quelque chose de l'enfance. Je sais déchiffrer les mains comme les visages. Ce n'étaient pas des mains d'assassin. La gouvernante. Quel jeu joue-t-elle ? Le testament de la châtelaine lui assure une pension de 10 000 francs par an. Soit. Mais les nouvelles dispositions portaient cette somme à 15 000 au cas où la vieille dame aurait atteint l'âge de 90 ans, c'est-à-dire dans 2 ans. Alors pourquoi l'irréprochable Madame Louise serait-elle devenue meurtrière pour le seul avantage de perdre l'augmentation de sa pension ? Ça n'a aucun sens. Une seule personne au monde tire profit du meurtre. L'héritière. Hélas, tous les renseignements sur elle sont excellents. Évangeline Souricet demeure à Châteauroux. Son père, Nicodème, ancien officier, veuf, passé pour le meilleur paroissien de l'église Saint-Expédie. Président de la conférence Saint-Vincent de Paul, auxiliaire bénévole du curé, commensal du vieil archevêque de Bourges, il avait trouvé dans sa fille une collaboratrice passionnée. Devenue orpheline, Évangeline Souricet a continué de mener dans sa petite maison une vie recluse, chaste et austère, en seule compagnie d'une amie, sans doute une lointaine parente, aussi discrète et dévote qu'elle.
Le ciel s'était couvert de nouveau. Une pluie rageuse crépita sur les vitres.
La vieille dame de conviction voltairienne n'a jamais pardonné au père, ce Nicodème, d'être devenu sur le tard une sorte de jésuite. Elle n'a jamais accepté de recevoir sa petite nièce. Alors pourquoi ne pas l'avoir déshéritée ?
Le petit juge ne pouvait se dégager d'une rumination poursuivie toute la nuit. Il lui semblait tenir le mot de l'énigme, quelque part dans son imagination. Et toujours, un visage revenait. Celui du curé de Mégères.
Ça va pas, brigadier?
Le curé vient de foutre le camp.
Entrez, bougre d'idiot.
Mais le curé...
Vous allez ameuter tout le village, monsieur le curé. Eh ben, il n'est pas sous mandat d'arrêt, que je sache.
Monsieur le juge, les circonstances me paraissent suspectes.
Et pourquoi ça suspecte?
Monsieur le curé se disait malade.
Il l'était. Il a eu hier devant moi une syncope.
Mais il a disparu, sans même prévenir sa bonne.
À quelle heure?
La bonne l'a vue la dernière fois dans la soirée. Elle l'a trouvé plutôt mal. Et ce matin, personne. Le lit n'était même pas défait.
Et qui peut savoir si notre curé n'est pas simplement sorti faire un tour?
Il n'est pas dans le village. Sûr. De plus, il a emporté une valise que Mademoiselle Céleste avait rangée elle-même. Et enfin...
Allez parler!
La bonne l'a laissé hier soir avec l'enfant de cœur. Eh bien, l'oiseau n'est pas rentré chez lui de la nuit.
Le juge s'habilla, ouvrit la fenêtre et s'y accouda, pensif. Au-dessous de lui, la place du village formait un tableau familier qu'il associait à des souvenirs d'enfance. Et l'image du curé semblait elle aussi monter des profondeurs de sa mémoire. Il essaya son chapeau, le jeta, se coiffa d'un béret basque et sortit. L'idée lui était venue de gagner le presbytère par un chemin remarqué la veille. Il passa une haie et se sentit trempé jusqu'au ventre, sauta dans un verger où ses pieds firent gicler de la boue. L'eau glacée ruisselait des branches. Soudain, la maison lui apparut. Le village si proche était invisible. Il s'étonna d'avoir fait si vite le chemin et de se trouver au fond d'une cuvette alors qu'il n'avait cessé de grimper. Il fit quelques pas et se trouva au pied du perron. Après un dernier coup d'œil au jardin solitaire, il entra. Le petit clergeon sortit de la chambre. Le juge se précipita vers le foyer pour en extraire avec la main des choses brûlantes, dont un grand portefeuille roussi.
Sais-tu que ça pourrait te coûter cher, imbécile?
Nous avons besoin de causer, toi et moi. C'est monsieur le curé qui t'a demandé de brûler tout ce que tu trouverais dans sa chambre?
Je l'ai fait de moi-même.
Regarde-moi en face. N'aie pas peur. Je vais te parler comme à un homme. Je ne te reproche pas de l'aimer. Voilà 10 ou 15 ans, il devait être un petit garçon comme toi. Et tu seras bientôt prêtre comme lui. Ne rougis pas. Tu crois qu'il me plaise plus qu'à toi, les gens d'ici? Des brutes. Il s'agit de tenir bon, voilà tout. C'est comme les bêtes. Ne tourne jamais le dos à un chien, il te sauterait dessus. Alors pourquoi notre ami a-t-il tourné le dos? Moi, je ne demande qu'à respecter son secret. Les prêtres sont les prêtres. J'ai servi la messe, moi aussi. Apprends que j'étais si loin de m'opposer au départ de ton ami que nous avions convenu ensemble du jour et de l'heure. Bref, je lui avais donné ma parole de fermer les yeux. Tu comprends? Et voilà qui nous file entre les pattes, au risque de mettre la justice en colère. Tu ne sais pas ce que c'est, la justice. La machine est dure à mettre en route. Mais une fois partie, sauf qui peut.
Le juge se sentit troublé par les grands yeux fixés sur lui, un regard vibrant d'intelligence, de courage, de sensibilité.
Réponds franchement, André. Notre curé t'a-t-il chargé de détruire les papiers?
Non. Il avait oublié de rendre la clé de sa chambre. Je l'ai fait pour lui, et j'ai alors trouvé des lettres et je les ai brûlées.
Personne ne croira ça. Moi, je te crois parce que c'est idiot. Tu conduirais tout droit ton idole à l'échafaud, rien que pour avoir l'honneur d'y monter avec elle. Ton ami te ressemble, lui aussi dramatise. Son pire ennemi, c'est lui-même. Mais s'il était un homme ordinaire, est-ce que nous serions là tous deux à parler de lui? Tu espères que vous ne vous quitterez plus?
Le regard de l'enfant s'assombrit, n'exprima plus qu'une méfiance hostile.
Réfléchis. Le curé de Mégère n'est pas libre. Il a des supérieurs. Et toi non plus, tu n'es pas libre. Moi, je te vois très bien bouclé au fond d'un petit séminaire où il y a peu de chances que tu rencontres un autre curé comme celui-là.
Mais alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Dites-moi, monsieur.
Dis-moi où il est.
Je ne sais pas.
Tu mens?
Non. Je ne comprends pas toujours ce qu'il dit. Mais ça suffit qu'il me regarde. De ce regard si doux qu'il fait peur. Je l'ai supplié de me garder, de m'emmener avec lui, n'importe où. Il m'a serré la tête contre sa poitrine. Nous sommes sortis dans le jardin, il faisait nuit. Il n'y avait plus aux quatre tilleuls qu'une seule fenêtre allumée. Il m'a dit que c'était la vôtre.
On lit sur tes souliers crottés comme dans un livre. Tu as conduit le curé par les chemins de traverse jusqu'à la gare de Presles, pour le train de 5h30. Je me trompe? Je le connais, ce tortillard. Et notre ami est descendu à Saint-Romain. Parce que vois-tu, garçon, je sais que s'il a manqué la patache avant-hier, c'est parce qu'il s'est arrêté à Saint-Romain. Dont le curé est son ami.
C'est moi, son ami!
Écoute-moi, Nigo. Va faire un tour là-bas. Et raconte à qui tu sais la conversation que nous venons d'avoir. Dis-lui que je n'exige rien. Sinon qu'il revienne et se tienne tranquille. Et pour ses secrets, mon Dieu, qu'il les garde. Allez, file.
Le juge retrouva sa chambre d'hôtel avec dégoût. L'air humide accablait ses nerfs. Il tira de sa poche le portefeuille roussi, un mince carton glissa jusqu'à terre. C'était une vieille photographie. Le juge y vit l'image d'une très jeune fille vêtue de noir, adossée à une de ces absurdes balustrades de carton qui sont le décor favori des photographes de province. Un visage d'une gravité mystérieuse et buté. N'était la longue natte de cheveux ramenée sur l'épaule, cette figure serait sans sexe et sans âge. La révolte est inscrite dans chacun des traits. Et la douleur? Une douleur réservée à l'adolescence qui marque pour la vie l'orgueil et la sensualité.
Ça me rappelle une affaire. Une jeune servante chez une fermière avait assassiné sa maîtresse. Les soupçons s'étaient d'abord portés sur le beau-fils, un dépravé. Il aurait été condamné à mort sans le hasard d'une lettre où la domestique expliquait à la fille de sa patronne, âgée de 15 ans, les sentiments qu'elle nourrissait pour elle en secret. Menacée de renvoi, la servante n'avait pu supporter l'idée d'être séparée de son idole et avait préféré tout bonnement zigouiller la mère de sang-froid. Pourquoi je pense à ça ?
Repos forcé, monsieur le juge. Vous avez attrapé la grippe. C'est d'ailleurs tout ce que vous aurez attrapé. Au diable, cette enquête.
À quoi bon chercher la vérité si on a peur de la trouver ?
Le juge gagna péniblement son lit. Il était brûlant de fièvre. Il ramena l'édredon sur ses jambes. Les mêmes images qui avaient hanté son sommeil surgirent de nouveau.
Le curé, son petit clergeon, la servante assassine et l'adolescente de la photographie. Qu'ont-ils donc en commun ces jeunes visages ? La même ombre, une ardente gravité, une douceur sévère. J'y suis. Ils ont tous quelque chose d'inachevé, d'équivoque, entre la bête et l'ange.
Quoi bon se tourner les sangs, mademoiselle Céleste ? Laissez donc faire la justice.
Ah, parlons-en de votre justice. Me voilà-t-il pas seul ici, à présent ? Jusqu'à ce morveux d'enfant de cœur qu'ils ont laissé filer. Des garçonnets dans son genre, c'est tout autant malicieux que des filles. Moi, j'aurais pris le gamin par les oreilles, et je vous aurais fouetté ça avec une bonne poignée d'ortie, histoire de lui faire retrouver sa langue.
Pour dire quoi ?
La vérité, pardi. Voilà un galopin que je laisse le soir avec monsieur le curé et le lendemain, plus de curé. Qu'est-ce qu'il en a fait ? Hein ?
Il n'aura pas mangé, votre curé, mademoiselle Céleste. Et puis, convenez que ce curé ne fait rien comme les autres.
Mais c'est parce qu'il n'est pas comme les autres. Voilà 30 ans que je sers et je connais mon monde.
N'empêche qu'il a un drôle d'air. Trop délicat, trop gracieux. Tenez. Il me fait penser à l'instituteur de Capdevielle.
Oh, vous devriez avoir honte. Ce dégoûtant qui a été révoqué pour meurtre. A-t-on idée de faire rougir une femme de mon âge ? Mais ne vous en faites pas, ma fine. On vous en redonnera des gros curés campagnards tout juste capables de boire et de manger, de vrais bouviers. Un enfant du bon Dieu comme celui-là n'est pas fait pour des rustos. À Grenoble, les belles dames de Sainte-Eulalie, elles vous l'auraient gâté, bichonné. Il donnerait de l'esprit à une bête, cet homme-là. Avant qu'il ait ouvert la bouche, on dirait que sa pensée est déjà dans vous, qu'elle vous a sauté dans le cœur. Et les mots pour lui répondre vous sortent d'eux-mêmes. À croire qu'il n'a qu'à leur faire signe, il a l'air de charmer des colombes.
Quand même. Un curé qui manque la patache, qui arrive après minuit dans la carriole de Mathurin avec les châtaignes et les peaux de lapin et qui disparaît sans même avoir montré le bout de son nez, vous pouvez expliquer ça, vous ?
Et ce juge qui fait des messes basses avec l'enfant de cœur, vous pouvez l'expliquer, ma pauvre Fémie ? Je les ai vus comploter. Deux têtes sous le même bonnet. Non, il y a de la politique là-dessous. Notre pauvre curé, il en savait trop. Et cette nièce, pourquoi qu'elle hérite ? Madame Louise répétait partout que le magot irait aux hospices ou au diocèse.
Vous savez qu'elle est là, votre héritière ? On dit qu'elle a l'air bien convenable, mais pas causante. Elle n'ouvre pas la bouche.
Elle a bien raison. Faut savoir se taire, mademoiselle Fémie. Justement, regardez qui nous arrive.
Je vous présente l'inspecteur Grignol de la brigade de Lyon. Nous allons faire une expérience.
Quand le curé est venu frapper à votre porte, vous dormiez ?
Oui, je crois.
Aucune importance. Ouvrez la fenêtre, puisque paraît-il, elle était ouverte. Rien. Attendons encore.
Vous comprenez, mademoiselle Céleste ? Il n'est pas possible d'entendre de cette chambre la détonation d'un pistolet dans le parc.
Non.
Alors, vous n'avez rien entendu?
Moi, non. Mais monsieur le curé...
a entendu des voix, comme Jeanne d'Arc.
Sortons, Grignol. Vous triomphez.
Cette expérience ne vous apprend à rien. Le curé a menti.
Dur à dire. Vous ne l'avez pas vu.
Je n'ai vu qu'une minute. Mais ça m'a suffi. C'est plus nerveux qu'une femme, un gars comme ça. L'idée n'était pas si mauvaise de lui laisser du champ. Il aurait pu nous mener quelque part. Mais ils ont filé le poisson, l'appât et la ligne. Personne n'a mis les pieds à Saint-Romain.
J'ai eu dès le début l'impression d'une porte qui se refermait derrière moi, me laissant dans le noir.
Bon, c'est pourtant simple. Deux vieilles femmes seules, une boniche. Et de quoi tenter un mauvais gars? D'ici la frontière, je vous en trouve une douzaine. Des gaillards capables du coup, des réfugiés, comme ils disent.
Et le type trouvé dans le parc?
Règlement de compte.
Si vite, comme ça. Et puis hop, filé en avion. Et le témoignage de Mathurin?
Un ivrogne.
Vous êtes pire que le procureur.
Moi, je la vois, la ligne du crime. Votre curé a pris du retard. Il descend à tâtons, il s'embrouille. Il a un revolver dans son sac. C'est utile, un petit curé pas trop solide, dans un pays du bout du monde. Hum? Un type se présente qui vient pas demander une bénédiction et PON! Le type va crever plus loin. Le curé retrouve son chemin. Il comprend que le type a déjà fait un seul coup, il donne l'alerte.
Idiot! Complètement idiot! Et Mathurin, qui avait une fille en caraco?
Cet imbécile est idiot tous les jours. Ben, il était saoul ce soir-là. Il a eu des visions.
Oui. Mathurin a eu des visions, le curé a entendu des voix, et moi j'ai la fièvre.
Tiens, on a du nouveau, on dirait.
Monsieur le juge, il y a un curé qui veut vous voir d'urgence.
Encore un curé? Et tout le diocèse va donc y passer, évêque en tête. Alors je veux qu'on m'adjoigne un docteur en théologie et une douzaine de chanoines. Et ma grippe, je soigne quand?
Au premier regard, le curé de Sommelièvre apparaît comme un de ces agneaux qui posséderont la terre, mais doivent en attendant y voir prospérer des animaux très différents d'eux.
Allons à mon hôtel. À plus tard, Grignol.
Je ne suis qu'un simple...
Je sais, intermédiaire.
Monsieur le curé, si vous avez quelque chose à me dire, dites-le.
On m'a parlé d'une femme.
Le voiturier Mathurin a parlé d'une femme. C'est un ivrogne.
Je l'ignorais. Mais le curé de Mégère...
Vous le connaissez, le curé de Mégère?
Non pas. Mais venant de Grenoble par le train ouvrier, il a cru bon de s'arrêter à Saint-Romain. C'est monsieur le curé de Saint-Romain qui m'a renseigné. Il a trouvé son confrère nerveux, inquiet.
Le curé de Mégère a toujours l'air nerveux et inquiet.
Il s'est plaint. Mais dois-je le dire?
Allez-y, mon Dieu.
Le curé de Mégère a demandé s'il était vrai que la châtelaine de Mégère avait l'intention de léguer tout son bien au diocèse.
Tiens donc. On peut l'entendre, votre confrère de Saint-Romain?
C'est qu'il a été appelé à Grenoble.
À Grenoble? Pourquoi pas aux Amériques?
Patron!
Vous êtes déjà là, vous? Puis tant mieux, Grignol. Vous savez, ils me feront crever.
Attendez un peu, patron. Pas le moment de blaguer. La petite bonne est en bas, Philomène. Elle arrive du château. Il paraît que l'autre vieille est morte, la gouvernante.
La voiture les conduisit jusqu'à l'entrée du parc. Mais ils durent monter à pied le chemin défoncé par l'hiver et qui éclate sous la poussée d'énormes racines de pin musclées comme des bêtes.
Elle avait rien mangé ce matin, ni à midi. Elle était restée dans sa chambre. Quand je suis allée voir, Madame Louise était couchée en travers du lit, les yeux grands ouverts.
Rien à faire. Injection massive de morphine, 3 ampoules sur la table de nuit, 1/4 dans le lit, sous les cuisses.
La morphine?
C'était une habituée. Il y a des cas de saturation sournoise. Le système nerveux réagit mal, on force la dose et le cœur s'effondre. Qu'est-ce que vous avez? Ouvrez la fenêtre, inspecteur!
Ça va aller.
Vous avez une fièvre de cheval, oui? Vous feriez mieux d'aller vous coucher.
Oui, mais... là-bas. Une enveloppe, donnez-la-moi. Elle a laissé une lettre.
Laissez, je vais la lire. Que la justice n'inquiète personne au sujet de la M. La mort, sans doute. Que je me donne librement. Un mot illisible. Expiation, réparation et expiation. Pour tous. Entre parenthèses, couvent, suicide. Honneur au curé de Mégère. Honneur à ce martyr. Drôle de charabia. Suicide?
Pas sûr. Cette lettre, c'est un brouillon. Il est daté de demain. Elle ne pensait pas mourir aujourd'hui.
Rentré à l'hôtel, le juge se laissa tomber sur son lit et son regard était celui d'un homme heureux.
Faites-moi monter du punch, Grignol. Je vais me saouler pour la seconde fois de ma vie. Et avant, passez-moi le thermomètre, là dans mon sac. J'ai donné rendez-vous ce soir à l'héritière. 39,8. Ces thermomètres allemands sont épatants. L'héritière. Ouvrons l'œil. Bien sûr, elle n'a quitté Châteauroux qu'avant-hier. Sale innocente. Est-ce que vous rêvez, Grignol?
Non, patron.
Parce que moi, je fais de ces rêves dont la vraisemblance semble se prolonger au-delà du sommeil, prendre place dans les souvenirs, appartenir au passé, réellement. Mais si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez pas comprendre.
Vous avez besoin de repos, patron.
Je n'ai jamais été aussi lucide. Quel dommage qu'un métier comme le nôtre fasse une part si médiocre à l'inspiration. Il y a en moi un respect humain, une pudeur, qui me retient d'utiliser mes rêves comme des pistes à suivre. Pourtant, dans le sommeil, le cerveau travaille sans préjugés, capable de toutes les audaces. Laissez-moi seul, Grignol. Et si l'héritière est en bas, ne la faites pas monter tout de suite. J'ai besoin de réfléchir.
La jeune femme se dirigeait à petits pas vers la porte de l'hôtel. Derrière la voilette, Grignol distinguait à peine son regard.
Je venais voir monsieur le juge.
Il est malade. Il faudra remettre.
Je dois quitter Mégère demain soir.
Je vous comprends. Le pays est plutôt macabre.
Monsieur, chez nous non plus, ce n'est pas gai.
Elle glissa doucement une main gantée de noir sur son front et découvrit un visage plus spirituel qu'on eût pu l'attendre d'une provinciale dévote. Elle fixa sur l'inspecteur un regard myope et pénétrant.
Bon, allez-y, mais ne le fatiguez pas.
Monsieur, ai-je l'air d'une personne qui fatigue les gens?
Grignol s'assit philosophiquement sur une marche et commença de repasser avec méthode le pli de son pantalon, en tâchant de rêver aussi fort que le juge. Le temps s'écoula, sans qu'il y prît garde.
Vous devriez monter, monsieur. Il a beaucoup de fièvre. Il ne sait plus vraiment ce qu'il dit.
Qu'est-ce qu'il fait?
Il dort. J'ai un peu l'expérience des malades. Quand il se réveillera, donnez-lui de l'aspirine, voilà tout.
En deux bonds, Grignol fut en haut de l'escalier.
C'est vous, Grignol?
Mm-hmm.
Restez une minute. Je me sens de mieux en mieux, mais pas capable de joindre deux idées ensemble. Ça colle au cerveau comme du caramel mou. Curieuse fille, hein?
Vous pouvez le dire.
Satané rêve. Il y a des ressemblances extraordinaires. J'ai eu l'impression de reprendre avec une créature de chair et d'os une conversation entamée cette nuit avec un personnage imaginaire. La photo, Grignol. De 12 à 30 ans, une fille peut changer. Où est la photo?
Il n'y a pas de photo, patron.
Excellent. La berrichonne l'a subtilisée sous mon nez avant de filer. La La gouvernante aussi, elle a filé à sa manière. Quant au curé...
La gouvernante, le curé, qu'est-ce qu'ils ont à voir encore là-dedans?
J'ai acquis la conviction qu'ils avaient un secret commun. C'est pourquoi j'en avais éloigné un pour avoir l'autre sous la main. Je ne m'attendais pas à ce suicide.
Ouais. Elle a emporté son secret?
Pas entièrement. J'ai appris des choses. En 1902, elle a quitté le couvent pour accoucher d'un bébé.
Une erreur de jeunesse, patron.
Gouvernante à Mâcon, institutrice à Quimper, gérante d'une pension de famille à Brest. Pendant 30 ans, elle a dissimulé son secret. Grignol, la fidélité à un seul mensonge n'est pas une simple escroquerie. Une longue dissimulation fait éclore un jour ou l'autre le drame. La dissimulation couvre le crime.
L'enfant est peut-être mort?
Non. Je l'ai retrouvé.
J'y suis. C'est le curé de Mégère.
Non, Grignol. J'y ai pensé, mais le bébé était une fille.
Alors, l'héritière?
Non. Rien de ce côté-là. Mais la photographie, cette pensionnaire de 12 ans avec une natte sur l'épaule, une grimace des lèvres, un regard. J'avais disposé la photo bien en vue, le temps de perdre connaissance, et je ne la retrouve plus, ni la demoiselle. Qu'est-ce que vous dites de ça?
Je dis que vous avez de la fièvre, patron.
Le curé de Mégère aussi, il avait de la fièvre. Ça ne l'a pas empêché de courir, hein? Un homme supérieur. Qui détale comme un lièvre, mais patience. Je lui ai mis un rabatteur aux fesses. L'enfant de cœur.
Bon, vous trouvez supérieur un quidame en soutane que je trouve douteux. Et vous espérez tenir de lui le secret de la gouvernante. Et ce secret vous donnerait la clé du crime. Moi, je regarde ailleurs. J'ai un peu parlé avec l'héritière. Je ne me vante pas d'être malin, mais je connais la femme. Eh bien, je vous fiche mon billet qu'il y a un homme là-dessous. Et que la demoiselle est en main.
Vous voyez ça tout de suite, vous?
Sans hésiter. Une amoureuse. Voilà ce qu'elle est. C'est tout sucre et tout miel, cette femme-là. Un vrai régal pour connaisseurs. Tenez, patron, sans blague. C'est presque trop bien pour un homme.
Qu'est-ce que vous dites? Grignol. J'ai compris. La photo. La photo.
Le juge se dressait sur son lit. Il tourna entre ses dents une langue épaisse d'un rouge sombre et tomba en syncope. L'unique fenêtre de la petite maison s'ouvrait sur l'abîme, d'où montait l'odeur du fleuve pourrissant. À 200 pieds plus bas, la Bidassoa roulait furieusement vers la mer. Madame Pousse parcourut du regard la pièce nue, la cheminée trop large, où le bois siffle et crache, le lit de chêne, et l'échelle qui monte à l'étroit grenier, où ce prêtre inconnu a voulu qu'on dressât pour son neveu un lit de fer emprunté à l'autel. Singulier caprice que d'habiter là, mais singulier prêtre. Madame Pousse se rappelle son arrivée voici bientôt 15 jours. Ce curé lui a plu tout de suite. Une voix douce qui oublie parfois de rester grave et prolonge les syllabes avec une sorte de tendresse. Un visage fin, tellement triste. La discrétion de tous ses gestes et ce sourire mélancolique qui flotte sur ses lèvres comme pour dire qu'il est revenu de tout.
C'est l'abbé Tchégoyen.
Mais que me veut-il celui-là? La sollicitude des confrères est accablante, Madame Pousse. Comme n'importe quelle sollicitude, d'ailleurs. Elles nous suivent jusqu'à la tombe, au sens exact du mot, puisque pour bien savoir ce qu'elles sont, il suffit de regarder les cortèges funèbres. C'est un spectacle dégoûtant. Toutes ces sollicitudes à la queue leu-leu, dans les cimetières. Où se cache-t-il, cet abbé?
Dehors, il vous attend.
Le curé effleura de la main la joue dorée du petit clergeon, qui se tenait debout contre le mur, et sortit. Madame Pousse resta seule avec l'enfant de cœur.
Des prêtres comme celui-là, mon garçon? Oh, probable qu'il y a du roman dans sa vie, pas vrai? Un si joli garçon. Oh, je connais plus d'une femme qui se contenterait de sa figure. Qu'est-ce que tu en dis, mon joli?
Moi, je ne dis rien. Vous parlez tout le temps, Madame Pousse.
Oh, toi, on ne peut pas te reprocher d'être bavard. Il te fait donc peur, ton oncle ?
Je n'ai peur de personne.
Tu l'aimes donc bien ?
Tout le monde l'aime.
Tu es jaloux ? Avoue que tu es jaloux comme une fille. Mais c'est vrai qu'on s'attache à lui. Tiens, dès le premier soir, sa façon de me parler de ma ville. Oh, Toulouse.
Toulouse ? Croyez-vous qu'il soit jamais allé à Toulouse ? Il a raconté ça pour rien, pour vous faire plaisir. Et vous l'avez cru. On le croit toujours.
L'abbé Etchegoyen attendait le curé de Mégère debout contre un mur, le visage dans l'ombre.
J'ai préféré vous voir dehors par discrétion. Pardonnez mon insistance, je remplis un modeste emploi auprès de Monseigneur. Et ma maison natale se trouve à côté d'ici, à Casté.
Que vouliez-vous me dire au juste ?
Il ne faudrait pas nous croire ici plus soupçonneux qu'ailleurs. Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz sont des villes très ouvertes. Moi-même, je dois parfois fermer les yeux. Nous essayons juste, pour ne pas compromettre notre clergé, d'éviter les histoires.
Les histoires ? Un prêtre en partie fine ? Ces messieurs croient en voir partout. Mais qui sait ? Madame Pousse a peut-être eu des doutes sur le sexe de mon petit compagnon.
Si vous aviez eu l'idée d'une fugue de la sorte, il eût été bien ridicule de déguiser une fille en garçon, alors qu'il vous aurait été plus facile de quitter la soutane, provisoirement.
Sans doute. J'ai d'ailleurs failli prendre de moi-même cette précaution contre la malveillance, mais la présence auprès de moi de...
De votre neveu.
Vous savez qu'il n'est pas mon neveu.
Votre franchise me met à l'aise. J'ai beaucoup vécu dans le monde. Vous n'êtes pas un jeune étourdi. Vous semblez traverser une épreuve des plus angoissantes.
Elle l'était. Mais on peut parler d'elle au passé. Car l'incertitude est le pire de nos maux, et peut-être le seul.
Connaissez-vous un certain... Frècheville ou de Frècheville ?
Le juge ? Oui, c'est un imbécile. Mais il a de la suite dans les idées. C'est donc un imbécile dangereux.
Eh bien, le hasard...
Il n'y a pas de hasard, monsieur...
C'est le nom que je donne à la Providence quand elle complique les choses au lieu de les simplifier. Bref. Ce juge d'instruction est venu achever à Bayonne la convalescence d'une grippe infectieuse et c'est chez moi qu'il a rencontré le curé de Casté. Ce que je fais m'inspire un grand intérêt pour vous, monsieur. J'ajoute que les gens de justice, au contraire... Comprenez que je ne m'associe nullement à une enquête policière. Vous êtes un tout jeune prêtre. Allez donc vous mettre sous la protection de vos supérieurs. Ils ne vous feront pas payer trop cher votre conduite. Sinon, il vous faudrait disparaître à nouveau. Et la sympathie que vous m'inspirez...
La sympathie. J'attendais le mot. Vous l'avez senti naître en vous dès le premier regard, n'est-ce pas ? J'éveille la sympathie. Quelle expression ignoble. Je pense l'avoir éveillée dès le berceau. Et j'ai subi cette fatalité. Mieux vaut que nous en restions là, vous et moi.
Je vois que vous vous trouvez en ce moment à l'extrême limite de vos forces.
Dites à Monsieur Frècheville que je suis à sa disposition.
Le curé trouva son petit compagnon couché en travers du grabat. Il lui mit la main sur le front, mais l'enfant tourna vers lui un visage convulsé de frayeur.
Pourquoi ne me parlez-vous plus ?
À quoi bon parler ? Vous êtes un menteur. Vous aviez promis de ne pas m'abandonner. Vous vous êtes joué de moi.
Que voulez-vous savoir ? La vérité ne vous servirait guère. Mes mensonges étaient faits pour vous. Il convient que je disparaisse avec eux. Vous pourrez dire que vous m'aurez accompagné jusqu'au bout de la route, car désormais devant moi, il n'y a plus de route. Et puis assez de sottises. Voulez-vous que je vous fasse reconduire chez vous par la police ?
Vous devriez craindre la police plus que moi. Vous allez vous rendre à ce juge comme un lâche.
Me rendre ? Me prenez-vous pour un voleur ? C'est peut-être vous le voleur. Qu'avez-vous fait de mes lettres ?
Je les ai lues et je les ai jetées.
Vous mériteriez d'être fouetté. Allons-nous-en.
Le chemin qu'ils prirent déboucha dans une sorte de cirque, où le vent du large fait tourner sans cesse une poussière coupante comme le verre. Ils s'assirent côte à côte au seuil de l'étroite brèche ouverte sur la bidassoie. De la rive opposée, montait la chanson d'un douanier espagnol.
« Je ne vous en veux pas d'avoir lu mes lettres. Ainsi vous savez tout. Je suis seulement attristée d'avoir troublé votre conscience.
Ma conscience? Je me moque bien de ma conscience. Que sais-je de vous? Au lieu que cette femme...
Elle non plus ne me connaît guère. Vous me voyez, vous, au seul moment de ma vie où je puis enfin être moi-même. Qu'appelez-vous mes mensonges? Le monde est plein de gens qui ne dissimulent rien parce qu'ils n'ont rien à cacher. Ils ne sont rien. Ils n'ont pas besoin de masques. Porter une infinité de masques, c'est une dure contrainte, croyez-moi. Mais quel jeu passionnant, dangereux. Donnez-moi votre main. Que ne vous ai-je connu plus tôt? Nous aurions partagé nos rêves. Peu d'hommes savent rêver. Rêver, c'est se mentir à soi-même. Et pour se mentir à soi-même, il faut d'abord apprendre à mentir à tous. C'est ce que j'ai fait, André. Je ne suis pas le curé de Mégère.
La voyageuse était arrivée à la gare à 2 heures du matin, une heure où les sages deviennent fous, mais où les fous deviennent rarement sages. À l'ouverture du buffet, elle avait demandé un café et de quoi écrire.
Madame reprend l'omnibus de 9h18 vers Quincy, arrivée 11h15. C'est malheureux de voir un taco pareil. De Bayonne ici, 4 heures, 4 et 2 font 6. 6 heures pour 180 km, vous parlez d'une moyenne. Les gars du Tour de France font mieux. Pain beurre ou croissant?
Rien du tout, café noir.
Si madame voulait...
Mon ami, fichez-moi la paix.
La voyageuse commence à décrire.
Pour mademoiselle Évangeline Souricet, Châteauroux. Mon ami... Je ne vous verrai plus. Je me souviens de notre première rencontre dans cette petite chapelle de nonnes. Vous aviez votre mine grise, votre pauvre sourire bêta. En revenant ensemble, nous n'avons pas échangé 10 paroles. Ce n'est pas que vous aimez le silence, mais il vous fascine. Moi, je l'aime. Et tout ce que j'aime a sur vous ce pouvoir de fascination. Après moi, il n'y a rien. Votre jeunesse n'aura été que pour moi. Ces longues années d'attente. Désormais, vous n'attendrez plus personne. Il vous faudrait beaucoup plus qu'une vie de femme pour reformer en vous, au profit d'un amant, ce que vous aurez anéanti pour moi. Vous m'avez crainte? Il n'y a pas d'amour sans crainte. Vous me craignez encore, et cette pensée m'est douce. Combien de fois m'avez-vous dit? Je ne sais rien de ton passé. Qu'aviez-vous besoin de savoir? Notre sécurité, notre bonheur, étaient au plus profond de ce secret. Appelez le mensonge, que m'importe. Quand nous aurions couru le monde, les sleeping, les palaces, mené la vie errante complice de tant d'amour, cela nous aurait-il plus séparés des hommes que les murs de votre petite maison? Osez dire que nous aurions connu la joie ailleurs que dans cette ville sordide où vous aviez bâillé 10 ans auprès d'un père dévot entre des prêtres et des nonnes? Oui, rien ne semblait changer à votre ancienne vie. Sinon, que je la partageais avec vous. Nous étions seuls, d'une solitude miraculeuse, que nous aurions inutilement cherché ailleurs. Car jour et nuit, veillait à notre porte la plus vigilante des sentinelles. Cette fausse image que le monde se faisait de nous. Comme vous aimez le mensonge, me disiez-vous. Oui, j'ai aimé le mensonge, et il me l'a bien rendu. Le mensonge m'a donné la seule liberté dont je pouvais jouir sans contrainte. Seulement, il finit par me tuer. Il me tue. J'ai su votre trahison dès le premier jour, ma chérie. J'avais fait le projet stupide de partir avec vous. Il ne nous manquait que l'argent. Et je savais le moyen de vous faire riche. Vous l'êtes à présent. Et...
La voyageuse resta un instant la plume suspendue. Elle raya le dernier paragraphe.
Votre misérable vie me reste ouverte. Je la forcerai quand il me plaira. Vous êtes demeurée la petite dévote surnoise empoisonnée de silence et de solitude qui allait chaque jeudi après la messe porter au petit Berrichon sa ridicule petite annonce. Orpheline vivant seule, demande compagne, excellente éducation, bonne famille catholique, artiste, physique agréable, pour existence commune, indemnité convenable. Votre naïveté ne soupçonnait même pas l'équivoque de la proposition. Mais surtout, apprenez que votre existence m'était déjà connue. Je savais tout de vous, et j'avais résolu de vous approcher coûte que coûte. Pourquoi ? Parce que je vous savais seule, faible, une proie facile, et l'héritière probable d'une châtelaine octogénaire. Une proie, rien qu'une proie. C'est pourquoi vous auriez tort de vous prévaloir de mon amour ou de mon amitié. Même auprès de cet amant que vous vous êtes trouvé. Ce serait inutile et dangereux, ma chérie. Je suis une aventurière. Excellente éducation, bonne famille. Elle est jolie, ma famille. Je n'ai pas de père, et je suis fille d'une religieuse défroquée. Pas mal, non ? Vous me jugez perfide. Mais je n'ai jamais fait que ce qui m'a plu dans le moment où ça m'a plu. Ma chère enfant, vous recevrez d'ici quelques jours la visite d'un très jeune homme auquel je m'intéresse beaucoup. Soyez généreuse avec lui. Ce n'est pas du chantage. Il me plaît juste de laisser dans votre vie un être si semblable à moi, d'une race si proche de la mienne, que je l'ai reconnu du premier coup. Moi, j'entrerai dans la mort sous un faux visage et sous un faux nom.
Madame qui veut qu'on lui fiche la paix va rater son train.
Ne croyez pas ça.
La voyageuse s'éloigna de la gare et acheta sur la place la dernière édition du courrier de Bayonne. Elle sema plus loin sa monnaie dans un champ, à la volée. Elle tournait le dos au village et marchait à travers un paysage d'une monotonie écœurante. Elle regarda l'heure, puis détacha sa montre de son poignet et la jeta dans les broussailles, au loin. Elle retrouva la ligne de chemin de fer qu'elle avait longée sans la voir et s'assit sur le remblai. Des images lui revenaient comme des bêtes si vivantes qu'elle eût cru pouvoir les repousser de la main. Elle revoyait sa triste enfance, les visages haïs de ses nombreuses nourrices, car sa mère errait de place en place, poursuivie par la crainte maladive d'être démasquée. Cette crainte était devenue une véritable obsession. De la foi qu'elle avait perdue, la défroquée n'avait gardé que le goût des foyers catholiques et une grande méfiance à l'égard des impies et des malpensants. Elle voulait garder le silence sur son passé, mais toujours, une force la poussait à faire une confidence de trop. Alors elle demandait son compte et s'enfuyait, traînant à sa suite la petite fille, son remords vivant. Après avoir connu 20 foyers de hasard, des maisons paysannes où sa mère allait la visiter en grand mystère, la petite fille qui grandissait dut courir encore d'école en école. L'ancienne religieuse se résolut un jour à placer la jeune fille en pension et entra à cette époque au service de la vieille dame de Mégère. Mégère. Le meurtre de la vieille dame n'avait pas été prémédité, ou si peu. La gouvernante, désespérant d'arracher à sa maîtresse plus qu'un legs médiocre, avait rêvé de placer sa fille au service de l'héritière. Ainsi croyait-elle lui assurer pour longtemps la sécurité. Elle savait la faiblesse de la petite nièce et l'ascendant que pouvait avoir sa fille. Mais l'héritage risqua alors de tomber entre d'autres mains, celle du clergé. L'ancienne religieuse, prévenue par l'homme d'affaires de l'archevêché, obtint de sa fille qu'elle tentât au nom de la petite nièce une démarche désespérée dont elle eût pu attendre la réconciliation des deux parentes. Le hasard avait fait le reste. S'étant trouvé deux fois dans le même jour face au vrai curé de Mégère, cela ne lui avait pas laissé le choix et lui avait fourni un déguisement inattendu. Non. Elle n'éprouvait aucun remords de ce crime. Seule l'obscure fierté d'avoir joué jusqu'au bout, et même, au-delà de la mort, un rôle extraordinaire, un rôle fait à la mesure de sa puissance de dissimulation et de mensonge, l'emportait sur tout autre sentiment. Elle fit quelques pas, s'assit lentement sur les rails, puis, dépliant son journal, l'étendit avec un sourire à l'endroit même où elle allait poser sa tête. Et sa joue se posa comme d'elle-même sur le titre d'un fait divers dont les lecteurs du courrier de Bayonne prenaient sans doute connaissance à la même heure.
Accident, crime ou suicide? On a retrouvé hier dans la Bidassoa le cadavre défiguré d'un jeune garçon d'une quinzaine d'années que le courant a sans doute roulé sur une grande distance et dont on désespère de pouvoir établir l'identité.
Crime de Georges Bernanos. Jonathan Capdevielle,
Nicolas Gonzalez,
Bernadette Le Sachet,
Paul Barge,
Marie-Bénédicte Roy,
Luce Mouchel,
Charles Gonzalez,
Olivier Claverie,
Jean-Marie Gallet,
Pierre-Yves Desmonceaux,
Michel Derville,
Laetitia Angot,
Camille Garcia,
Alicia Schmitz,
Jean-François Labouvry. Bruitage, Alain Platiot.
Adaptation, Sylvie Péju.
Prise de son, montage, mixage, Jehan-Richard Dufour. Éric Villenfin, Manon Houssin.
Assistante, Anne-Laure Chanel.
Réalisation, Jean Couturier.